Chapitre 41. Dom croyait beaucoup au karma. Si tu fais une connerie, il va t'arriver de sérieuses bricoles. Or, Dom avait du mal à imaginer pire connerie que le kidnapping d'une enfant. Quand ils étaient rentrés au club, on lui avait confié la tâche de surveiller la petite aux cheveux bouclés. Il ne savait pas pourquoi c'était lui qu'on avait désigné, mais en même temps, il valait mieux que ce soit lui que l'arrosoir. Cet abruti aurait été capable de lui faire boire du Jack Daniels. La télécommande à la main, Dom zappait de chaîne en chaîne, pendant que l'enfant dormait dans le berceau de fortune qu'il avait fabriqué avec des couvertures et des chutes de contreplaqué. Il se trouvait dans l'extension que Cheddar, Gremlin et lui avaient construite à l'arrière du club. À l'opposé, sur la terrasse, le reste des frangins beuglaient en se donnant de grandes tapes dans le dos pour célébrer leur dernier exploit, l'incendie d'une baraque et la collision volontaire qui avait envoyé une femme à l'hôpital. Dom, lui, n'arrivait pas à penser à autre chose que Gremlin et Cheddar, étendus sur le gravier devant une maison isolée. Est-ce que les vautours avaient déjà repéré leurs cadavres? Est-ce que les asticots avaient déjà colonisé leur bouche? Il changea à nouveau de chaîne. Grayson faisait défiler le répertoire du portable qu'ils avaient piqué à la bonne femme du négro avant d'enlever la gamine. L'horloge dans le coin supérieur droit indiquait 4h45. Il était temps de passer un coup de fil à ces deux connards qui se prenaient pour des justiciers. En téléphonant à une heure aussi matinale, Grayson espérait les trouver complètement désorientés et terrifiés à l'idée de ce qui pourrait arriver à la morveuse. Son pouce se posa sur l'entrée, Ike. Celui-ci répondit à la deuxième sonnerie.
« Allô ?»« Salut, le négro. Comme je t'ai dit, le sang appelle le sang. Là, en l'occurrence, ce serait plutôt « la mioche appelle la pute ». Alors voilà comment ça va se... »«
Je veux parler à ton chef. »
l'interrompit Ike, et Grayson faillit s'esclaffer.
Tu crois que t'es en position de négocier, Bamboula? Et pour ta gouverne, le chef ici, c'est moi.
Non, t'es juste un exécutant. Je veux parler à Gerald Culpepper.
Les doigts de Grayson se crispèrent sur le portable. Cet abruti de Gerald qui n'avait pas pu s'empêcher d'aller narguer l'ex-mari de sa femme. À croire que ça le faisait bander de se comporter comme le grand méchant dans un film de James Bond.
Pas de bol, c'est moi qui dicte les règles, rétorqua Grayson. Et je te conseille de les appliquer à la lettre, si tu veux pas commencer à recevoir des morceaux de ta petite fille par la poste.
Si tu veux jouer à ça, moi aussi je peux t'envoyer des morceaux de Gatsby Culpepper,
lâcha Ike. Grayson, qui se tenait vautré dans son fauteuil de président du club, se redressa d'un coup.
Qu'est-ce que t'as dit?
Ike ne répondit pas. À la place, Grayson entendit un long gémissement, et à l'évidence, il ne s'agissait pas d'un gémissement de plaisir. C'était le bruit de quelqu'un qui passait un très mauvais moment.
Gerald, tu m'entends, fiston?
Demanda Gatsby.
C'est quoi ce bordel?
Tonna Grayson.
« Maintenant, c'est moi qui dicte les règles, connard !» dit Ike. « Tu vas prévenir Gérald qu'on tient son père en otage. Ensuite, tu vas nous rappeler et on t'indiquera un point de rendez-vous. On amènera le vieux débris et vous, vous amènerez Ariana. »«
C'est pas ce qui était prévu, sale nez ! Continue sur ce ton et j'arrache une dent à Papy Gatsby pour m'en faire un pendentif. »« Ah oui, et j'allais oublier. T'avises pas de venir faire un tour à Red Hill ?» Si j'aperçois la moindre Harley, ça va me stresser, et je vais en coller deux dans la tête de l'ancêtre. Tu peux me croire sur parole,
conclut Ike, et il raccrocha. Grayson éloigna le portable de son visage et l'observa longuement. Il avait envie de le balancer à travers la pièce, de l'écraser sous sa botte. Au lieu de quoi, il le posa sur la table. Ce n'était plus un téléphone, mais la manifestation physique du merdier dans lequel il se trouvait. Ce rectangle noir était un portail ouvert sur l'univers parallèle dans lequel il vivait désormais. Un univers où il n'arrêtait pas de se faire doubler par deux anciens tôlards proches de la retraite. Grayson se leva et récupéra un crayon de menuisier dans la boîte à outils sur l'étagère du garage. Il sortit ensuite un ticket de caisse de sa poche, y nota le numéro d'Ike, replia le morceau de papier et le rempocha. Enfin, il ramassa le portable et quitta la pièce. La plupart de ses frangins traînaient devant le club,
Quelques-uns étaient assis sur leur bécane, une nana sur les genoux. Grayson posa le téléphone par terre, il recula d'un pas, dégaina son 357 Magnum et tira les 6 balles que contenait le barillet sur le rectangle noir, ne s'arrêtant que lorsque la queue de détente fit clic. Puis, il rentra appeler Gérald. Ike versa un peu d'alcool maison dans son café. Dans son dos, il entendait Buddy Lee bombarder Gatsby de questions, auxquelles le vieil homme ne pouvait pas répondre, puisqu'il était à nouveau bâillonné.
« Tu te souviens quand Derek a fini ses études et qu'aucun d'entre vous n'est allé à sa remise de diplôme ?» Il m'a raconté. « Moi, j'avais une excuse, j'étais en prison. Mais toi, t'étais à la retraite. Je sais que c'était ton beau petit-fils, mais putain, t'aurais pas pu repousser ta partie de golf d'une heure ?» Tu veux que je te dise, Gatsby? Pour quelqu'un d'aussi éduqué, tu manques sacrément de bonnes manières.
Gatsby marmonna derrière son baillon. Ike devina qu'il s'agissait d'un florilège des plus beaux jurons de son répertoire. C'est alors que son portable sonna. Il décrocha.
Écoute-moi bien, espèce de sauvage!
Cracha Gérald.
Mon père n'a rien à voir dans cette histoire, alors relâche-le tout de suite! « Et peut-être que je dirai à Grayson d'attendre un peu avant d'égorger ta petite mulâtresse. »
« Je commence à en avoir ras-le-bol de votre façon de parler à toi et tes sbires. » Ike claqua des doigts, et Buddy Lee saisit Gatsby par le col de sa chemisette pour le mettre en position assise.
« T'occupe pas de ma façon de parler !» dit Gérald. « Inquiète-toi plutôt de ce qui risque d'arriver à ta petite fille !»
Touche à un cheveu de sa tête et ton père meurt dans d'atroces souffrances.
Je veux lui parler.
T'as 5 secondes, répondit Ike. Buddy Lee arracha la bande adhésive des lèvres de Gatsby et Ike approcha le téléphone de son visage.
Gérald!
Halta Gatsby. Ike récupéra le téléphone pendant que Buddy Lee remettait le Chatterton en place.
Comme tu l'as entendu, il est en vie, dit Ike.
J'espère pour toi qu'Ariana l'est aussi, sinon tout ce qui te restera enterré de ton cher papa tiendra dans une boîte à café.
Ramène-les. Lui et Tangerine.
Ah. Non, l'interrompit Ike. Pas Tangerine. Ton père contre Ariana. C'est le nouveau deal. On te rappelle dans 1 heure. Il raccrocha.
Tu leur mets une sacrée pression,
commenta Buddy Lee.
T'as pas peur qu'ils se vengent sur la petite?
Non. Maintenant qu'on a le patriarche, ils savent qu'on est prêt à tout. Je pense pas qu'ils aient très envie de voir de quoi on est capable s'ils s'avisent de s'en prendre à Ariana. Il ne reste plus qu'à trouver un lieu de rendez-vous pour l'échange. Et il va aussi nous falloir des armes. Beaucoup d'armes.
Je crois que j'ai une idée pour faire d'une pierre 2 coups,
déclara Buddy Lee après quelques secondes de réflexion.
Mais il faut qu'on aille parler à des gens. Qu'est-ce qu'on fait de lui en attendant?
On l'attache au lavabo de la salle de bain.
« T'as pas eu besoin de réfléchir longtemps, »
fit remarquer Buddy Lee. « C'est pas la première fois que je suis confronté à ce genre de situation. »«
Moi non plus. N'empêche, on sent que t'as de l'expérience. »«
Malheureusement. »«
Tourne ici, »
indiqua Buddy Lee en désignant un panneau métallique blanc accroché à un grillage. Les rayons du soleil levant se reflétaient sur l'inscription « Marina Morgan » en grosses lettres noires. Ike franchit le portail ouvert et se gara à côté d'une bâtisse étroite, au mur lambrissé, derrière laquelle un ponton en bois imputrescible s'enfonçait dans la baie de Chesapeake. De part et d'autre de la structure étaient amarrées 10 d'embarcations allant du petit bateau de pêche au yacht de luxe. Ike tira le frein à main.
« Maintenant, c'est ton tour d'attendre dans la voiture, » dit Buddy Lee.
« T'es sûr que t'auras pas besoin de renfort ?»
Ça devrait aller. Chet est un suprémaciste cinglé qui s'est spécialisé dans le trafic d'armes. Mais c'est quand même mon demi-frère.
Buddy Lee descendit du pick-up et se dirigea vers la bâtisse. Une clochette tinta lorsqu'il poussa la porte. À la caisse, quelques péquenauds étaient en train d'acheter des appâts. Chet jeta un œil à Buddy Lee et rendit la monnaie au client. Ceux-ci saluèrent le nouveau venu d'un signe de tête avant de sortir, laissant Buddy Lee et Chet seuls dans la boutique.
T'es pourtant au courant que c'est pas une bonne idée de ramener un type comme ça chez moi,
déclara Chet, en désignant le parking, où Ike se tenait à côté du pick-up en pleine conversation téléphonique.
J'avais oublié que t'aimais pas les capricornes,
railla Bedili, et Chet émit un grognement. Qu'est-ce que tu me veux, au juste?
Comme Bedili, Chet était grand et dégingandé, mais avec une tignasse blanche assortie à sa barbe clairsemée. Un tatouage « Vivre libre ou mourir », la devise de l'État du New Hampshire, ornait son biceps saillant. Malgré l'heure matinale, il n'était que 8h30, son t-shirt gris présentait déjà des auréoles au niveau des aisselles.
« J'ai besoin que tu me rendes un service »,
répondit Buddy Lee. Chet quitta sa caisse pour se placer à 30 centimètres de lui.
« La dernière fois que t'es venu ici, je t'avais pourtant prévenu que je te devais plus rien. Tu te rends compte de la merde dans laquelle vous m'avez mise, Dick et toi ?» Chully a envoyé Skunk Mitchell me poser des questions. Skunk Mitchell, putain! Chully croyait que j'étais une balance, et que c'était pas un hasard si Dick et toi vous étiez fait serrer avec la cam. Ce deal m'a coûté un paquet de pognon et pas mal de nuits blanches. Et maintenant, t'espères que je vais te rendre un service? Moi, il m'a coûté 5 ans de ma vie. J'ai tout pris sur moi parce que Dick aurait pas survécu en tôle. Mais puisque t'abordes le sujet, c'est quand même une drôle de coïncidence que le juge ait abandonné les poursuites contre toi pour trafic d'armes après notre arrestation, tu trouves pas?
Chet le fusilla du regard, et Buddy Lee lui décocha son sourire à $10,000.
T'en fais pas, reprit Buddy Lee. J'en ai jamais parlé à personne. Et puis, qui le croirait de toute façon? Faudrait être une sacrée raclure pour jeter ses frangins en pâture afin de sauver sa peau, non? On est du même sang. Le même sang vérolé, on va pas se mentir. Mais le même sang, malgré tout. En plus, de l'eau a coulé sous les ponts depuis.
Chet sortit une boîte de Tabasco de sa poche revolver et coinça une chique à l'intérieur de sa joue.
« Je peux rien faire pour toi, Buddy. »
conclut-il. D'une pichenette, Buddy Lee fit virevolter un leurre rouge orangé accroché à un présentoir à côté de la caisse.
Tu m'en veux parce que Skunk t'a filé la peur de ta vie. Je comprends. T'as la rage parce que t'as perdu du fric. Je peux comprendre aussi, même si je suis pas certain que ce soit vrai. Ce que j'arrive pas à comprendre, par contre, c'est comment tu peux tourner le dos à Derek. C'était mon fils. Ton neveu. Des enfoirés de la pire espèce l'ont abattu comme un clébard. Je suis sur le point de foutre le grappin sur ces fils de pute. Et tout ce qu'il me faut, c'est la clé de ta propriété à Matthews. J'en ai besoin, Chet. T'as pas envie de me rendre ce service? Le fais pas pour moi. Fais-le pour Derek.
Chet retourna à sa caisse, récupéra un gobelet en polystyrène sous le comptoir et y cracha un énorme glaviot noirâtre.
Ton fils, tu veux dire le P...
Chet n'eut pas le temps de terminer sa phrase que Buddy Lee fondit sur lui et lui colla la lame de son canif sur le cou.
« Non !» dit-il calmement. « Pas ce mot. Pas pour parler de mon fils. Je l'ai suffisamment utilisé de son vivant. Maintenant, c'est fini. Tu me fous un couteau sous la gorge. Tu débarques chez moi avec un négro et t'oses me menacer. Tu te crois où, là ?»
Buddy Lee vit son propre regard dans les yeux de son frère. La même haine corrosive, héritée de leur père.
T'arrête pas de prétendre que t'es un vrai guerrier. Sauf que quand je suis venu te chercher pour que tu m'aides à retrouver ceux qui avaient assassiné Derek, t'as réagi comme si je te demandais la lune. À croire que t'en avais rien à foutre de ton neveu. L'homme que tu vois dehors, lui, il a été à la hauteur. C'est le frère que j'aurais dû avoir. Mais il est pas trop tard pour te rattraper. Alors soit tu me files les clés, soit je t'égorge et je les récupère sur ton cadavre. Dans tous les cas, je repartirai pas sans.
Chet eut un rictus qui révéla ses dents brunes, et Buddy Lee appuya un peu plus la lame du couteau contre la gorge de son demi-frère.
« On réglera nos comptes plus tard, frangin !»
cracha Chet, et il se mit à agiter 2 clés qui étaient apparues dans sa main comme par magie. Buddy Lee les récupéra et recula lentement en gardant la pointe de son couteau orientée vers Chet. Quand il sentit la poignée de la porte dans son dos, il replia la lame.
« Je vais te tuer, Buddy !» T'as intérêt à surveiller tes arrières,
menaça Chet.
Désolé, frangin, mais t'arrives un peu tard pour ça.
Buddy Lee s'installa sur le siège passager. Ike le rejoignit et démarra.
Tout va bien?
Demanda-t-il, alors que son compagnon rangeait les clés dans sa poche.
Ouais, ouais.
Je me faisais juste la réflexion que c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers.
J'imagine que c'est pour ça qu'on est encore là. Allons jeter un coup d'œil à cet endroit, dit Buddy Lee pour changer de sujet. J'y suis déjà allé une fois, mais c'était il y a longtemps, et j'ai besoin de me rafraîchir la mémoire, d'étudier le terrain avant la bataille.